on a l'habitude d'entendre dire « tel père, tel fils ». Pour ma part, j'ai pris conscience que dans un certain nombre de domaines, j'agis comme mon père et dans d'autres, comme ma mère. Alors, en fin de compte, je ne suis pas très différent de mes parents. C'est très logique, me direz-vous. Pourtant, les exceptions qui confirment la règle, comme on dit, peuvent être de taille. Les exemples ne manquent pas dans la vie courante et on en trouve aussi dans les Écritures. Le long ministère du prophète Ésaïe chapeaute les règnes de 4 rois de Juda. Ozias, Jotham, Ahaz et Ézéchias. Le premier, Ozias, est un bon roi, comme d'ailleurs Amasias, son père, et Jotham, son fils. Mais curieusement, Ahaz, le troisième, c'est-à-dire le petit-fils d'Ozias, est ignoble. Par contre, Ézéchias, le quatrième et le fils de l'abject Ahaz, est un très bon roi, malheureusement. Le suivant, Manassé, le fils d'Ézéchias et petit-fils du roi ignoble Ahaz, est le plus exécrable de tous. Tel père, tel fils ne se vérifie donc pas aussi souvent qu'on croit. Je commence maintenant de lire le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Sous le règne de Ahaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, le roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mirent en campagne avec Pekas, fils de Remaliou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Ésaïe 7, verset 1er. Je vais situer tous les personnages cités par le prophète ainsi que ces événements qui comprennent plusieurs campagnes militaires. Il faut dire que c'est assez compliqué et pour y voir clair, il est nécessaire de faire plusieurs recoupements de différents textes tirés des seconds livres des rois et des chroniques qui font partie des écrits historiques de l'Ancien Testament. Les circonstances tragiques décrites par Ésaïe ont lieu en l'an 734 avant Jésus-Christ, au début du règne du roi Ahaz. Le chapitre précédent a décrit la vision de la majesté et de la sainteté de l'Éternel qu'Ésaïe a reçue l'année de la mort d'Ozias, un bon roi. Son fils, Jotham, lui succède alors. Je lis le passage dans le second livre des rois. La deuxième année du règne de Pekas, fils de Remaliou, roi d'Israël. Jotham, fils d'Ozias, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement, et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Ozias. De Rois chapitre 15, les versets 32 à 34. Curieusement, les textes sacrés donnent souvent la chronologie des rois de Juda, c'est-à-dire le royaume israélite du sud, par rapport au règne des rois israélites des 10 tribus du nord et inversement. Pekah est un aventurier, un vaurien qui s'empare du trône du royaume israélite du nord et qui régna pendant 20 ans, 752 à 732, avant d'être assassiné. Il s'est allié à Retsin, roi de Syrie, qui déclare la guerre à Jotham, le successeur du roi Ozias. En effet, dans le second livre des rois, on lit « Pendant le règne de Jotham, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pekah, fils de Remaliou. » Deux rois, chapitre 15, verset 37. Puis, Jotham mort et l'ignoble Ahaz lui succède. Dans le second livre des rois et des chroniques, on lit « La 17e année du règne de Pekas, fils de Remaliou, Ahaz, fils de Jotham, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. il ne fit pas ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. 2 Rois 16, les versets 1 et 2. Il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur de Baal. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. L'Éternel, son Dieu, provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. 2 Chroniques 28, les versets 2 à 5. Ce texte nous donne la cause spirituelle de la défaite militaire du roi Ahaz, mais parallèlement, il y a aussi une raison politique. En effet, déjà au temps du roi Jotham, père de Ahaz, la Syrie et le royaume israélite des 10 tribus du Nord se sont alliés pour faire face à la Syrie qui monte en puissance et inquiète donc ses voisins. Ces deux royaumes veulent contraindre Juda à entrer dans leur coalition. Mais comme Ahaz est pro-assyrien, il décide de le vaincre, de le déposer et de le remplacer par quelqu'un de favorable à leur cause. Je continue de lire le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Ésaïe 7, verset 2. Éphraïm est la plus importante des 10 tribus qui constituent le royaume Israël du Nord. Et son territoire est au sud, donc frontalier avec le royaume de Juda. C'est ce qui explique pourquoi la cour du roi est dans tous ses émois quand on apprend que le Syrien Retsin réunit son armée avec celle du roi Péka pour attaquer Jérusalem par le nord. Avant de se rassembler dans le territoire d'Éphraïm, les Syriens viennent tout juste, par un heureux coup de main, de conquérir le port d'Elat qui appartient à Juda et qui est situé à l'extrémité nord du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge. Dans le second livre des rois, on lit. Vers la même époque, Retsin, roi de Syrie, ramena Elat sous la domination des Syriens. Il en chassa les Judéens et des Édomites vinrent s'y installer. 2 Rois chapitre 16, verset 6. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Juda a non seulement perdu le port d'Elat, mais le royaume a aussi été attaqué dans le sud du pays par deux autres nations. Dans le second livre des Chroniques, on lit. De nouveau, les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené des captifs. À la même époque, les Philistins firent une incursion dans les villes du bas pays occidental et du Négev qui appartenaient à Juda. Ils s'emparèrent de plusieurs villes et localités et s'y établirent. 2 Chroniques 28, les versets 17 et 18. Juda a subi défaite sur défaite et maintenant, les Judéens se font écraser par les Syriens et les Israélites des 10 tribus du Nord. Ici encore, je lis dans le second livre des Chroniques. Les Syriens le battirent à Az et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Ahaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Péka, fils de Remaliou, massacra en Juda 120 000 hommes, tous de vaillants guerriers parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. 2 Chroniques 28, les versets 5 et 8. Le royaume de Juda est pris dans un étau. Envahi par le nord et le sud, la ville de Jérusalem, puissamment fortifiée, est encerclée, mais ne sera pas conquise. Ce que le prophète Ésaïe a déjà précisé quand il a dit Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekah, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Ésaïe 7, verset 1er. Le texte parallèle du second livre des rois dit « Alors Retsin, roi de Syrie, et Pekah, fils de Ramaliou, roi d'Israël, vinrent pour attaquer Jérusalem. Ils assiégèrent Az, mais ils ne purent pas engager le combat. » 2 Rois 16, verset 5. La raison de cet échec n'est pas due à un sursaut de Juda, mais à l'Éternel qui protège son peuple. Quand Ahaz, au lieu de se confier en Dieu, il va se vendre aux Assyriens, dans le second livre des rois, on lit. Ahaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton vassal et ton fils, viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël qui sont venus m'attaquer. » Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal, et il l'envoya comme présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie répondit à sa demande, il attaqua Damas, prit la ville et en déporta la population à Kir. Quant à Retsin, il le fit mettre à mort. 2 Rois 16, les versets 7 à 9. Bien qu'Ahaz soit un roi ignoble de l'autre, son stratagème a réussi parce que Dieu n'est pas prêt encore à laisser tomber Jérusalem dans les mains de ses ennemis. Ce n'est qu'environ un siècle et demi plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, que la ville sera conquise par les Babyloniens. Je continue le texte. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Ahaz, toi et Shear-Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du blanchisseur. » Ésaïe 7, verset 3. Jusqu'à présent, Ésaïe est resté dans l'ombre, mais il reçoit ici un ordre de mission. Sans son intervention au milieu de la panique générale est impressionnante et significative. À première vue, il semble assez curieux qu'il emmène son fils avec lui. Mais en réalité, cette démarche est due à son nom Shear-Yashub, qui signifie « un reste se convertira ». Et qui donc est un vivant présage du jugement et du salut. On retrouve d'ailleurs ce nom un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe au chapitre 10 et au verset 21 en tant que phrase d'un passage. Ésaïe doit emmener son fils avec lui parce que son nom résume bien le message de son père qui annonce un jugement à venir, mais aussi la promesse de salut pour une toute petite partie du peuple, celle qui restera après l'épuration de la nation. Comparez Ésaïe 10, les versets 21 et 22. Ésaïe a eu un deuxième fils dont le nom, long et compliqué, a lui aussi un sens très symbolique et en rapport avec le ministère prophétique de son père puisqu'il signifie « hâter le pillage, emporter promptement le butin ». Ésaïe 8, les versets 1 et 3. C'est tout dire. L'aqueduc dont il est question dans ce passage est à proximité de la route du champ du blanchisseur, juste en dehors des murs d'enceinte de Jérusalem. La ville reçoit l'eau du réservoir supérieur, aussi appelé « ancien étang », comparé à Ésaïe 22, verset 11, et qui est alimenté par une source importante, le Guillon. 2 Chroniques 33, verset 14. Que les Yéboussiens, les premiers habitants de ce qui est Jérusalem, exploitaient déjà. Le roi Ahaz a de bonnes raisons de se trouver près de ce réservoir d'eau, vu qu'il se prépare à soutenir un siège. Ne voulant évidemment pas que ce réservoir tombe entre les mains de l'ennemi, il est probable qu'il surveille les travaux de renforcement du système défensif qui, à cet endroit, est très vulnérable, alors que le sud et l'est de Jérusalem sont bien protégés par de profonds ravins. Ce réservoir supérieur existe toujours et s'appelle Birkei Mamilia. Il est situé au nord-ouest de Jérusalem, non loin de la porte de Jaffa. Plus loin, Dans le livre, Ésaïe parle également d'un réservoir inférieur, Ésaïe 22, verset 9, qui est plus au sud. Et lui aussi existe toujours, Birkei es Sultan. La route du champ du blanchisseur mène à un quartier qui se trouve dans le voisinage du réservoir supérieur parce que l'activité des foulons, qui nettoient le cuir et les étoffes de laine, exige beaucoup d'eau. C'est aussi là que l'envoyé du roi d'Assyrie, Sennachérib, s'entretiendra quelque 30 ans plus tard avec les représentants d'Ézéchias, roi de Juda. Ésaïe 36, verset 2. Il va sans dire que l'une des conditions nécessaires à la vie sur terre est l'eau. En France, nous avons la chance d'en avoir, qui soit à peu près potable partout, mais il y en a de plus en plus d'endroits dans le globe où elle fait défaut et ou bien elle est polluée au point de présenter un sérieux danger pour la santé du fait qu'elle contient des microbes organiques ou des produits toxiques. Dans le domaine spirituel, l'eau symbolise la parole de Dieu et la vie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé la source d'eau vive, Jérémie 2, 13, 17, 13. Et dans l'Évangile, selon Jean, on lit que Jésus a dit à la femme samaritaine « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10. Je continue le texte du chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Tu lui diras « Prends garde et calme-toi, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux queues de tison fumant. » Devant la fureur de Retsin et de Péka, fils de Remaliou, parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Remaliou ont tramé contre toi un mauvais coup en disant « Marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Dabéel. » Ésaïe 7, les versets 4 à 6. En comparant le roi syrien et israélien du Nord à des tisons fumants, Dieu annonce qu'ils seront bientôt éteints, c'est-à-dire leur fin prochaine. Effectivement, ils sont tous deux morts dans un bain de sang. Tabéel est mentionné par le roi assyrien Tiglath-Pileser sous le nom de Tibilu. Cet homme était probablement un haut fonctionnaire syrien que le roi Retsin voulait placer sur le trône de Juda afin qu'il participe à la coalition qu'il formait avec le roi israélite des 10 tribus du Nord. Mais Ahaz avait déjà envoyé une ambassade et beaucoup d'argent pour demander l'aide de la Syrie. Ce fut un calcul désastreux, parce qu'après avoir empoché le magot, Tiglath, Pileser a d'abord pris son temps, puis il a conquis le nord du royaume israélite des 10 tribus et la Syrie, mais ensuite il s'est mis en campagne contre Juda. Je continue le texte. Mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsim qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Remaliou. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. Ésaïe 7, les versets 7 à 9. La dernière phrase est un jeu de mots intraduisible. En hébreu, c'est « pas de certitude, pas de sécurité ». L'appel à la foi est la substantifique moelle de toute la prédication d'Ésaïe. Le roi Ahaz et sa cour sont semés de croire les paroles du prophète Ésaïe, parce que les Syriens et les Israélites du Nord ne sont pas restés chez eux et sont sortis de leur gond. Pour ainsi dire, en voulant conquérir Juda, ils seront châtiés. La prophétie des 65 ans concernant Éphraïm a été faite en 734 avant Jésus-Christ. La Syrie a conquis les 10 tribus du Nord en 722 et déporté une grande partie de sa population et l'a progressivement remplacée par des gens d'autres pays. Deux rois 17-24, Esdras 4, verset 2. Ces nouveaux colons ont continué d'arriver jusqu'en l'an 669 date à partir de laquelle les Israélites qui n'ont pas été emmenés captifs sont complètement dilués dans la masse païenne importée. C'est ainsi que le royaume israélite des 10 tribus du Nord a cessé d'exister pour être remplacé par un peuple hybride qui prendra le nom de Samaritain. Je continue. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Ahaz dit « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Ésaïe 7, les versets 10 à 12. Pour aider Ahaz à croire, Dieu est prêt à faire un miracle aussi extraordinaire qu'il le souhaite. Ce sera pour lui, pour sa cour et le peuple, le gage de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. L'Éternel fait donc preuve d'une bienveillance exceptionnelle envers ce roi unique. Mais la réponse qu'il donne à Ésaïe, et qui semble fort pieuse, n'est qu'un vernis. Il a déjà décidé de déjouer ses ennemis en s'alliant avec la Syrie, le plus fort d'entre eux. Il semble cependant qu'il connaît le passage de la loi dans le livre du Deutéronome qui dit « Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel » Deutéronome 6, verset 16. En réalité, derrière ces paroles mielleuses, il feint de croire en Dieu et de craindre de le foncer en lui demandant un signe. Cependant, c'est l'Éternel qui le lui propose. Ce n'est pas Ahaz qui le demande. Dieu veut ainsi prouver au roi que, d'une part, les paroles du prophète Ésaïe sont bien de lui, et d'autre part, lui donner l'occasion de se repentir. Une dernière chance d'abandonner son idolâtrie et de revenir à son Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de croire en lui sans nous donner une solide fondation sur laquelle repose notre foi. Il ne veut pas que je saute dans le vide les yeux fermés. Si je fais confiance à Jésus-Christ, c'est sur la base d'événements historiques, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Fils de Dieu. Le roi Ahaz refuse l'offre de l'Éternel parce qu'il ne veut pas avoir un contact trop intime avec lui en acceptant son aide, car cela l'aurait obligé à changer de conduite et de politique. Or, comme il a déjà décidé de s'en remettre à la Syrie plutôt que de faire confiance à Dieu, il a endurci son cœur. Superstitieux, comme tant d'incrédules, Ahaz couvre sa mauvaise foi avec le manteau de l'hypocrisie d'une réponse pieuse. Une fois, la dame qui faisait le catéchisme nous a raconté l'histoire du bon Samaritain. Elle a décrit en détail comment un homme fut attaqué par des brigands, comment ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et le laissèrent gisant dans son sang. Luc 10, verset 30. Nous la regardions avec des yeux grands, comme des soucoupes. Elle nous a parlé du prêtre et du lévite qui sont passés à côté de ce pauvre homme sans lui prêter la moindre attention. Puis elle a demandé à chaque enfant ce qu'ils auraient fait. L'un a dit « Je serais parti chercher de l'aide ». Un autre « J'aurais pansé ses plaies avec ma chemise ». La dame s'est alors approchée d'une petite fille qui semblait contrariée. « Et toi, qu'aurais-tu fait ?»« Eh bien, de le voir par terre et tout en sang, je crois bien que j'aurais vomi. » Cette petite fille est sincère, et c'est aussi ce que Dieu pense de notre religiosité. Ça le fait vomir. Je ne sais pas si vous allez dans un lieu de culte ou si vous faites vos Pâques, mais il ne faudrait surtout pas croire un seul instant qu'un rite, quel que soit, va vous mettre en règle avec Dieu. La foi est une affaire individuelle entre moi et Dieu. Nul ne peut prendre la décision à ma place. Je dois personnellement accepter Jésus-Christ et seulement lui comme mon sauveur. Dans son évangile, Jean rapporte que le Seigneur a dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean, chapitre 6, versets 47, 11, les versets 25 et 26.